Bien, Pierre-André Boutang, j'aimerais savoir comment est conçu Océanique, parce que je crois que vous en êtes le maître d'œuvre.
C'est conçu dans un immense désordre, avec des dizaines de gens qui viennent ici, qui ont des idées, qui ont des envies. Il y a une espèce de cadre à peu près précis, puisque un directeur de la télévision qui s'appelle Jégu a dit un jour « Je veux que tous les soirs de la semaine, il y ait de la télévision très intelligente. » Je dis « Tous les soirs, t'es un fou, on pourra jamais. » Alors on a transigé sur 3 fois par semaine, c'était il y a 1 an et 3 mois. Oui, c'est ça, 1 an et 6 mois, puisque ça a commencé en septembre, il y a 1 an. Et puis on a dit qu'en gros, on allait, que le lundi, ça parlerait des idées, c'est-à-dire des gens qui pensent, des gens qui théorisent, que ça soit des philosophes, des scientifiques, comme l'honorable individu ici qui s'appelle Dominique Pignon, qui fait une émission sur les supraconducteurs. Donc c'est les philosophes, les écrivains, les scientifiques, etc. Le mercredi, ce sont les œuvres, c'est-à-dire les artistes, les créateurs. Alors, les idées le lundi, les créateurs le mercredi, et le jeudi, c'est un regard sur comment vivent les gens un peu loin d'ici. Dénombriliser le regard du spectateur en leur montrant des papous, des anglais, des autrichiens, etc. Donc on a 3 cases. On fait ça avec la 7 parce que ça s'est trouvé que la 7 arrivait au bon moment, et qu'entre l'argent de la 7 et l'argent de la 3, on avait les moyens de tenir ce rythme tri-hebdomadaire. À partir de là, il y a les idées et les envies qu'on a qui couvrent d'immenses feuilles de papier. Il y a les idées que les gens nous apportent. Quand quelqu'un arrive et parle des supraconducteurs et qu'il est physicien, on se dit, tiens, c'est intéressant, comment on va faire pour s'en sortir? C'est drôle, je te regardais sourire, en même temps, je te regardais sur l'écran. Et je me disais, pourquoi il me regarde avec cette tête? Mais ça, c'est bon. Bon, et puis on aligne des sujets, puis on décide de les faire. Tantôt c'est la 3 qui les fait tout seul, tantôt la 7 tout seul, tantôt la 3 et la 7, et puis on tombe sur des idées, on aligne, et quand on aligne sur des feuilles de papier tout ce qu'on a envie de faire, et qu'on voit qu'on a un programme presque fait jusqu'à fin 1990, on se dit on est content. Ce temps, c'est pas tellement difficile, parce que ça, on fait des choses qui n'intéressent pas les autres télévisions. Ça veut dire que Emmanuel Lévinas, philosophe 2 heures, nous on a envie de le faire, personne n'avait envie. Quand on arrive chez Lévinas, on dit il a dû refuser 100 fois, il dit non, personne ne m'a jamais demandé. Bon, et puis tous les gens qui ont envie de faire des portraits de gens de théâtre un peu fouillés ou des portraits de musiciens, ils arrivent ici parce qu'on est devenu une espèce de luxueuse poubelle où les gens se disent tout ce que les autres ne veulent pas faire, on va pouvoir le faire dans Océanique. Alors ça se passe comme ça. À part ça, il y a une équipe ici, il y a 15 personnes qui courent comme des fous, qui s'occupent des tournages, des montages, et puis il y a 20, 30, 40 réalisateurs, et puis il y a des producteurs privés qui font les coproductions. Tout ça, ça agite je ne sais pas combien de dizaines de gens dans un désordre exquis où on croit qu'on est toujours en retard, ce qui est d'ailleurs vrai. Et on a un rêve, c'est avoir 4 mois d'avance de démission toute prête, rangée sur une étagère, où on sait ce qu'on fera les 4 prochains mois. Alors on sait à peu près ce qu'on fera dans 3 mois, mais on ne sait pas ce qu'on fera dans 15 jours. Les 3 mois suivants sont prêts, mais la prochaine émission n'est jamais prête par définition. Alors c'est toujours la panique. Mais voilà, sinon, je sais pas, puis on va dans un auditorium où on fait des commentaires, puis il y a des gens qui font des montages, on va voir dans la salle de montage, et puis ça va ou ça va pas, il faut recommencer. Je sais pas, c'est du travail. Sauf que c'est pas du travail, parce qu'on s'amuse tous beaucoup. Alors c'est vrai qu'on travaille, mais on n'a jamais l'impression d'aller au boulot. Alors ils sont tous très excités. Il y a 14 documentalistes. Là, il y a un type qui est mon adjoint, qui organise, qui me regarde à gare, parce qu'on doit enregistrer dans 5 jours l'émission qui passe dans 10 jours, qui est un débat sur l'URSS de Gorbatchev. On n'a toujours pas de studio, mais ça va s'arranger. Bon, c'est comme ça.
C'est une grande passion, alors, Océanique.
Ah, je sais, c'est pas une grande passion, c'est un mode de vie assez agréable.
Un mode de vie agréable. Ouais. Parce que c'est quand même fabuleux, moi, je trouve, de passer de Michel Foucault à, effectivement, Glenn Gould, Trotsky, bon, l'URSS, là, apparemment, ce que vous préparez sur l'URSS a l'air assez conséquent.
Oui, il y a le portrait de Trotsky en 2 volumes. Ensuite, il y a l'histoire de la Tchécoslovaquie d'une démocratie populaire, du jour où elle est devenue une démocratie populaire jusqu'à aujourd'hui. Il y a un film russe qui s'appelle « Procès de Staline », qu'aucun anti-soviétique viscéral occidental n'aurait osé faire, mais qui a été fait par les Russes. Il y a un film qui s'appelle « Le Moujik d'Arkhangelsk », qui est l'histoire d'un paysan russe récent. En gros, c'est la bande-annonce de la politique gorbatchevienne sur l'agriculture, de libéralisation et de donner aux gens, non pas la propriété, mais la jouissance des terres et le droit de s'en occuper. Et il y a un portrait de Vysotsky d'1 heure, qui était un immense poète, acteur et chanteur russe, qui est une espèce de superstar en Russie, dont on n'a pas idée de ça en France. En France, c'est quelqu'un qui était la star de 250 millions de Russes dans le genre souffrant fou de la Russie et souffrant en même temps de ne pouvoir y être et faire ce qu'il voulait. Alors, ça, on est allé à Moscou, on a discuté avec les Russes, on a fait des projets avec eux de choses qu'on va faire, c'est-à-dire un chaliapine de 2 heures. Et puis, au coin de la rue, je leur ai dit, mais au fond, Vysotsky, vous avez des documents. On dit tout ce que vous voulez. Alors, en échange des documents Vysotsky, on leur a organisé un tournage qu'ils font ici sur une poétesse russe qui a été pratiquement, qui a fini en camp de concentration. Parce qu'en ce moment, en Russie, ils font tous des films. Ils font des centaines de films sur toutes les victimes de Staline. C'est hallucinant. Je veux dire, on voudrait passer ça. On ferait un an de programmation pour expliquer que Staline et la bureaucratie russe, c'est l'horreur. Bon, alors on tombe sur les gens, on discute. Et puis les gens finissent par savoir qu'ici, on peut faire des choses. Donc, dès qu'ils ont des envies, ils rappliquent. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait presque vivre des idées des autres. Mais on le fait pas tout à fait.
Alors, au-delà de l'Union soviétique, les autres projets, l'avenir?
Ben, dans un an, il y aura une série comme ça aussi, il y aura un paquet horizontal sur l'islam. Sinon, il y a des... l'avenir, je sais pas, vous savez, quand on travaille sur 160 films à la fois, vous dire l'avenir, je sais pas, moi je sais plus ce qui est passé la semaine dernière, ce qui passe la semaine prochaine. Je peux vous donner un papier où vous verrez, il y a 160 films alignés, portraits de gens de théâtre, portraits de gens de musique, un film sur le ballet cambodgien, des films sur... des séries qui s'appelaient Archives du XXe siècle, qui sont des choses qu'on avait tournées il y a 15 ans et qu'on maintenant on ressort, puisque la télévision ne s'en est jamais servie, où il y a le portrait d'Emmanuel Berle, qui était un vieux monsieur extraordinaire, qui était à la fois le conseiller d'Édouard Herriot, le meilleur ami d'Aragon et de Drieux La Rochelle, le mari d'une dame exquise qui a écrit Chanter dans le foin, qui s'appelle Mireille, et qui a aussi, paraît-il, mais c'est écrit une phrase de Pétain qui est « La terre ne ment pas », bon, qui était un vieux monsieur subtil, qui a connu Proust, qui a connu tout le monde. On l'a filmé il y a 15 ans avant sa mort, ça va passer en janvier, puis ensuite on va passer 2 heures de Daniel Guérin, qui est mort il y a un an, où il raconte sa vie, et 2 heures de Raymond Abellio, romancier assez extraordinaire, qui a écrit La fosse de Babel, et ces 3 types qui ont été à la charnière du politique et du littéraire pendant 50 ans, ils sont morts tous les 3, il se trouve qu'on a 2 heures de chaque, et ça va être un triple portrait, comme ça, de gens qui étaient à la charnière des conspirateurs de la cagoule, du Parti communiste, des anarchistes, des socialistes, d'Édouard Herriot. Bon, ça va être une espèce de portrait comme ça, des coups d'éclairage sur une certaine manière de vivre entre culture et politique pendant la première moitié du siècle et jusqu'en 1960. Puis après, vous dire qu'il y en a, il y en a, il y en a, oui, il y a des débats sur la recherche scientifique, il y a plein de choses, oui, mais je ne sais plus quoi dire, il y en a, je vous dis, je n'ai pas les 160 en tête.
Bien, bah écoutez, je vous remercie, Pierre-André Boutang.